Vous écoutez On lit pour vous.
Bedford, ou les dérives d'un multiculturalisme qui craque, un texte de Boucar Diouf, paru le 26 octobre 2024 dans la presse. Le Canada est un pays qui érige le cloisonnement communautaire britannique en valeur sociétale. À Ottawa, on y croit tellement qu'on honnit toute vision qui s'écarte de cette idéologie qui est pourtant aujourd'hui décriée de tous bords dans sa Grande-Bretagne d'origine. Alors, penser qu'on peut mélanger ici les mêmes ingrédients dans les mêmes conditions et s'attendre à un résultat différent relève d'une grande utopie. Lorsque Justin Trudeau partira du pouvoir, l'histoire retiendra malheureusement son règne comme celui sous lequel l'intolérance a significativement augmenté au Canada. Pensez ici au refus catégorique de certaines provinces de recevoir les demandeurs d'asile que le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, voulait leur envoyer. Plus ironique encore, ce sont les mêmes provinces qui traitent le Québec francophone d'intolérant chaque fois qu'on a une mésentente autour du vivre ensemble. Pourtant, selon les chiffres de Statistique Canada, le Québec accueille 55 % des réfugiés, ce qui correspond au double de son poids démographique au sein du Canada entre 22 et 23 %. Le Québec est loin d'être parfait. Mais dans bien des sondages réalisés ces dernières années, il apparaît plus ouvert à l'immigration que le roc. Ce sont ces chiffres qui ont poussé Justin Trudeau à piler sur son orgueil et à revoir ses seuils d'immigration à la baisse. Le dernier coup de sonde de la firme Environique, réalisé le 17 octobre 2024, a rapporté que 62 % des Canadiens estiment qu'il y a trop d'immigrants contre 46 % des répondants au Québec. Voilà une réalité que vous n'entendrez jamais les élites médiatiques et intellectuelles multiculturalistes de l'anglophonie canadienne commenter ostensiblement. Les gens du roc sont également plus nombreux à trouver qu'il y a trop d'immigrants qui n'adoptent pas les valeurs canadiennes. Le sondage nous apprend aussi qu'ils sont plus nombreux à penser que le Canada accepte trop d'immigrants appartenant à des groupes de minorités raciales. Faut le faire. D'ailleurs, à l'été 2024, en me promenant dans une rue de Toronto avec mon fils, nous avons eu la grande surprise de nous faire lancer gratuitement des insultes raciales par un inconnu. Sans affirmer que ce type de racisme n'existe pas ici, je dois dire que je n'ai jamais vécu ça à Montréal. Justin Trudeau a beau se positionner comme le champion de l'ouverture, sa vision naïve de l'immigration et du vivre ensemble a fait basculer le Canada vers plus d'intolérance. En cause, accueillir une immigration de masse sans proposer à ceux qui arrivent un projet d'intégration est un chemin vers une balkanisation sociale. Parfois, je me demande si les politiciens canadiens constatent l'ampleur du cul-de-sac dans lequel cette idéologie a mené la Grande-Bretagne. Les anciens premiers ministres conservateurs Theresa May et David Cameron ont tous les deux reconnu l'échec de ce multiculturalisme. L'idée selon laquelle le multiculturalisme est un échec fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus, aussi bien chez les conservateurs que chez les travaillistes. Ainsi disait Theresa May le 4 juin 2017. En février 2011, pendant un discours prononcé à Munich, David Cameron a évoqué l'échec du modèle d'intégration britannique et appelé à construire une identité nationale pour tous. En Allemagne, à la fin octobre 2010, La chancelière Angela Merkel déclarait aussi que le multiculturalisme pratiqué dans son pays était un échec. Elle a plaidé tardivement la nécessité pour les immigrants de s'adapter à la culture et aux valeurs allemandes. Il est peut-être temps d'essayer une approche plus interculturelle pour endiguer les dérives ethniques, raciales et religieuses engendrées par le multiculturalisme. Au milieu de tous ces monologues communautaires que Justin Trudeau croit être une harmonieuse conversation nationale, certains essaieront même de demander à la majorité historique de s'effacer dans ses valeurs fondamentales pour leur permettre d'exister sans concéder aucune forme de compromis. C'est un peu ce scénario qui s'est joué dans l'horrible histoire rapportée à l'école Bedford. Il est peut-être temps de s'intéresser à cet autre côté de l'immigration avant d'arriver à cet horrible spectacle qui se joue en ce moment aux États-Unis avec Donald Trump. Heureusement, après avoir stigmatisé tous ceux qui osaient évoquer le sujet, la crise du logement et les sondages ont ramené M. Trudeau à la raison. Ce que Justin Trudeau insinuait être de l'intolérance, lorsque venu du Québec, est devenu du gros bon sens. Comme dirait celui dont la faveur populaire a motivé cette surprenante pirouette libérale. On s'attaque au seuil, mais il faut aussi remettre en cause le modèle. Entre le laisser-aller britannique et le modèle français tout aussi dysfonctionnel, il y a une autre voie de passage. Le troisième chemin, plus équilibré, c'est le modèle interculturel que le Québec essaie d'implanter malgré une forte opposition des partis fédéraux. Ainsi va le Canada. La loi sur le multiculturalisme canadien n'était-elle pas aussi une arme législative contre la volonté de grandeur du Québec? Les langues commencent maintenant à se délier aux quatre coins du Canada et à parler d'intégration. Personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il y avait du beau à faire partie d'une histoire qui a commencé bien avant nous. Loin d'être une assimilation ou un effacement de soi, l'intégration est juste une invitation à construire ensemble autour des valeurs fondamentales de la société d'accueil. Aussi, elle n'empêche personne d'ajouter ses couleurs à cette histoire et la faire évoluer pour le bien de tous. Malheureusement, ce qui s'est passé à l'école Bedford démontre que certains sont réfractaires à cette idée. Maintenant, où se trouve la solution au problème observé à l'école Bedford? Certainement pas dans la proposition de mixité sociale de Paul Saint-Pierre Plamondon. La seule façon de catalyser une telle mixité aurait été de régionaliser efficacement l'immigration, chose que tous les gouvernements québécois du dernier quart de siècle n'ont pas réussi. Oui, il y a une amélioration, mais elle est encore marginale. Ce défaut d'intégration que souligne le chef péquiste est une responsabilité partagée. En effet, les quartiers à forte prédominance de personnes issues de l'immigration sont devenus ce qu'ils sont car les Québécois dits de souche sont partis au fur et à mesure que les immigrants s'y sont installés. Le manque de mixité sociale y est aussi la conséquence d'un défaut de mixité économique causé par ces inégalités de plus en plus croissantes dans notre société. La seule chose qui reste à faire, c'est de trouver une façon plus efficace d'assurer aux enfants dans ces quartiers une éducation à l'abri des dérives communautaristes et du prosélytisme religieux. Un enseignement qui respecte le programme pédagogique du ministère de l'Éducation du Québec. Voici, pour terminer, une proposition que les spécialistes de la question vont certainement trouver loufoque. Quand j'étais élève au primaire, les inspecteurs d'académie déstabilisait parfois le quotidien des enseignants et enseignantes. Parfois, sans s'annoncer, ces inspecteurs s'invitaient dans une classe pour une évaluation de ce qui s'y passe. C'est le principe du client mystère, bien connu dans certains magasins et qui force les employés à toujours rester en alerte. Pourquoi pas un centre pour recevoir les plaintes anonymement et aider ces éventuels inspecteurs à mieux pister les fautifs à l'abri de la bureaucratie scolaire et des dérives syndicales? C'était Bedford ou les dérives d'un multiculturalisme qui craque, un texte de Boukhar Diouf, paru le 26 octobre 2024 dans la presse.
Sébastien, s'inspirer de sa vie ou pas? Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, paru le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue. Le metteur en scène finno-britannique Mikko Makela présentera son nouveau film, Sébastien, à Imagination. Le film, à la fois sensuel et raffiné, propose le parcours à travers le Londres d'aujourd'hui d'un jeune écrivain qui se livre au travail du sexe pour nourrir ses écrits. Nous avons interrogé le réalisateur sur l'approche de son sujet, le lumineux héros de son film et les choix artistiques qu'il a faits. Dans quelle mesure avez-vous puisé dans votre vie à vous pour composer cette histoire? Une des principales questions que je cherche à poser à travers ce film est « Dans quelle mesure doit-on connaître un sujet personnellement pour l'aborder dans une œuvre? A-t-on le droit de n'user que d'empathie et d'imagination pour raconter une histoire? Je trouve aussi intéressant de demander au public si son appréciation d'un travail est fonction du caractère autobiographique ou pas. En même temps, on ne peut pas écrire sans mettre quelque chose de sa vie et de sa perspective dans ce qu'on crée. Donc, bien sûr, c'est un film qui a un ancrage personnel. Il parle d'un jeune artiste qui cherche à comprendre ce qu'il veut dire au monde et doit opérer dans le cadre d'un système commercial. Mais naturellement, ce personnage est aussi très fictionnel et imaginaire. Quel type de recherche avez-vous faite pour préparer le film? Avec quel degré de précision vouliez-vous apprendre à connaître ce milieu? Je voulais que le film fasse authentique, mais en même temps, je ne cherchais pas à réaliser un portrait documentaire sur le travail du sexe. J'ai tout de même parlé à beaucoup de gens pour essayer d'être juste sur les détails de cet univers, et j'ai passé énormément de temps sur les sites utilisés pour se connecter avec des clients. J'ai essayé de comprendre la manière dont les gens se présentent et le lexique qu'ils utilisent autour de cette activité. Je voulais aussi que le projet soit bien ancré dans le Londres d'aujourd'hui et qu'il soit précis aussi à ce niveau-là. Comment avez-vous trouvé Rouaride, l'acteur principal? Nous avons travaillé avec un merveilleux directeur de casting, avec qui nous avons fait de vastes recherches pour trouver quelqu'un qui n'aurait pas trop le bagage de rôle précédent. Je voulais que le public puisse se lancer dans un parcours parallèle de découverte envers l'acteur et son personnage, tandis que Max se découvre lui-même. C'est grâce à une self-tape que j'ai découvert Rouaride Molika. En le voyant, j'ai su d'emblée qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial chez lui. Il a une intensité, une audace et une énergie brute incroyables, mais aussi quelque chose de vulnérable, et il est incroyablement précis dans son jeu. J'ai eu le sentiment que c'était la personne parfaite, capable de rendre pleinement la vie intérieure assez complexe de Max. Qu'est-ce qui a primé dans votre approche esthétique? Je voulais obtenir un style qui soit à la fois celui d'une étude de caractère très intime, à travers une grammaire fondée sur les gros plans, et d'un film d'observation légèrement plus distant. Je voulais transmettre l'idée qu'on est avec lui, mais ensuite qu'un effet de distanciation ironique intervienne d'un coup, comme si on le regardait de l'extérieur. Le film s'articule principalement autour de la distinction entre les sphères publiques et privées, C'est pour cela qu'on met l'accent sur les intérieurs. Cela aide à mieux appréhender et comprendre le personnage central qui mène une double vie. Il était aussi important de faire la distinction entre les mondes diurnes et nocturnes. Au niveau des décors, des intérieurs en particulier, nous voulions que les domiciles des clients rendent compte du caractère de leurs propriétaires. La musique était importante en tant que manière d'accéder à l'esprit de Max. Nous avons cherché à l'utiliser de manière psychologique pour indiquer les glissements psychologiques. Je voulais une musique électronique qui incorpore également des éléments naturels. Je ne suis pas un grand fan des musiques orchestrales traditionnelles. J'aime travailler avec des sons électroniques très simples, plus atmosphériques. Ça a été un travail très intéressant d'incorporer des instruments acoustiques dans la bande originale. C'était Sébastiane, s'inspirer de sa vie ou pas. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue.
Le projet Vieillir chez soi continue de rendre service. Un texte de Jacinthe Laforêt, paru le 5 octobre 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis son lancement au printemps 2024, le programme Vieillir chez soi, mené par les francophones de l'âge d'or, a rendu de nombreux services à des personnes âgées. Les plus récentes statistiques montrent 38 clients, la majorité dans la région évangéline et à Summerside, Miscouche. Bien qu'incomplètes, les plus récentes statistiques compilées par la coordonnatrice du programme, Vieillir chez soi, donnent une idée de sa pertinence pour les personnes de 50 ans et plus. Nous avons 38 clients actifs en ce moment, c'est-à-dire des personnes qui vivent chez elles et qui reçoivent de l'aide de la part de bénévoles ou de personnes payées par le programme pour des petits travaux. Dans cette catégorie, le petit ménage de maison est populaire. Dans la catégorie bénévole, nous avons beaucoup de transports pour des rendez-vous médicaux. Ça rend des services, c'est certain, dit Karen Langevin, coordonnatrice provinciale. Sur les 38 clients, 19 sont à Évangéline et 13 dans la région de Summerside-Miscouche. C'est normal, car les gens se connaissent et le bouche-à-oreille se fait plus facilement. Nous savons cependant qu'il y a des besoins dans d'autres régions, entre autres à Prince West et à Charlottetown, analyse la coordonnatrice. Les clients se gagnent un par un. Je parlais avec une dame qui avait besoin d'aide pour son petit ménage, mais elle ne voulait pas que quelqu'un qu'elle ne connaît pas viennent faire le ménage chez elle. Je l'ai convaincue en lui disant qu'elle pourrait rendre service à sa belle-fille en lui permettant de gagner un peu d'argent. On a fait un petit contrat de service et ça fonctionne bien, se réjouit la responsable. Toutes les transactions et toutes les actions bénévoles sont inscrites dans une base de données. Cela permet de tenir compte de l'argent dépensé par le programme et de rendre des comptes aux bailleurs de fonds, le temps venu. Karen Langevin note qu'en raison de l'âge des clients, certains contrats ne durent pas longtemps. Nous avons eu des décès, malheureusement. D'autres clients sont entrés en résidence, spécifie-t-elle. Le but du programme est de permettre aux personnes âgées de vivre chez elles le plus longtemps possible. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Un peu d'aide pour le ménage, quelqu'un pour vous conduire, pour vos commissions ou vos rendez-vous médicaux. Nous avons plusieurs clients qui reçoivent des injections dans les yeux chaque mois. Je pense que pendant l'hiver en particulier, le besoin en transport sera encore plus grand. La Journée nationale des personnes âgées était le 1er octobre. Et le samedi 5 octobre, au centre Belle Alliance à Summerside, c'était l'Assemblée générale annuelle des francophones de l'âge d'or de l'île du Prince-Édouard. L'organisme a vu son membership exploser au cours des récentes années, dépassant à présent les 350 membres. Les voyages sont populaires. Quand nous en faisons, nous avons souvent de nouveaux membres, dit Claude Blaquière, président de l'organisme. Il se réjouit en particulier de la percée récente réalisée dans la région de Charlottetown. Dans le courant de l'après-midi de notre Assemblée générale annuelle, nous allons faire des caucus de région pour permettre aux gens d'une même région de discuter ensemble et de partager par la suite avec le grand groupe. Je pense que cette occasion de réseauter sera appréciée, dit le président, qui mettait la touche finale au bulletin « Poivre et sel » qui devait être distribué un peu plus tard. C'était le projet « Vieillir chez soi continue de rendre service ». Un texte de Jacinthe Laforêt, paru le 5 octobre 2024 dans La Voix acadienne de l'île du Prince-Édouard.
Les ramènes en 6 infos savoureuses. Un texte commandité paru le 7 octobre 2024 dans La Presse. Succulent et réconfortant. Les ramènes comblent de bonheur des milliards de papilles de Tokyo à Bécomo. D'où viennent ces délicieuses nouilles gorgées de bouillon qui sont aussi satisfaisantes, sinon plus, que le spaghetti de votre mère? Et pourquoi font-elles tant saliver? Survol de ce mystérieux plat dont la popularité a décuplé dans les dernières décennies. 1. La petite histoire des ramènes. Originaire de Chine, les ramen ont séduit le Japon au début du siècle dernier, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont gagné en popularité. La pénurie de riz, combinée au besoin de se nourrir rapidement et à faible coût, a contribué à l'essor de cet aliment. C'est en 1950 que les ramen instantanés, composés de nouilles déshydratées, ont vu le jour. Le succès fut tel que son inventeur, Momofuku Ando, s'est vu décerner le surnom de Mr. Noodle. Aujourd'hui, les ramen sont fabriqués et dégustés partout dans le monde. 2. Des bouillons qui réchauffent l'âme. Les ramen sont faits de farine de blé, d'eau, de sel et de kansui, une solution alcaline qui donne aux nouilles leur couleur jaune et leur consistance ferme. La personnalité du plat réside toutefois dans le choix du bouillon. Parmi les quatre plus populaires, le shio est le plus léger. D'apparence claire, il se marie parfaitement au poulet. Le shoyu, à base de sauce soya, est souvent servi avec une tranche de porc shashu. Le miso, fait de pâtes de haricots fermentées, présente des reflets orange et une consistance plus épaisse. Mais le plus dense et onctueux des bouillons demeure le tonkotsu. Fait à base d'os de porc mariné, il dégage une odeur bien caractéristique. 3. Des ramen au choix du chef. La composition des ramen peut se faire selon vos goûts grâce à une foule d'ingrédients. L'accompagnement classique comprend généralement un œuf mariné au soya qui rehausse l'expérience par sa délicatesse et son centre crémeux, et le nori, une algue japonaise qui donne de la texture au repas en plus d'être riche en minéraux et en fibres alimentaires. Les légumes s'ajoutent ensuite à ce délice. Maïs, pousses de bambou, champignons, choux et épinards sont des options populaires. Les essentiels d'un bol réussi? Une touche de kimchi, d'oignons verts et de pâtes épicées, ainsi qu'un choix de viande ou de poisson. 4. L'art de manger des ramen. Déguster cette spécialité est un art en soi. Au Japon, les comptoirs de ramen sont considérés comme des établissements de restauration rapide. Il faut donc manger ce plat vite, d'autant plus que, comme le bouillon est très chaud, il faut éviter que les nouilles continuent à cuire. Il convient d'aspirer les pâtes bruyamment, une technique appelée zuru-zuru. De cette façon, les arômes du bouillon se libèrent pleinement et la nouille refroidit. Si vous préférez la discrétion, déposez vos nouilles dans la cuillère qui accompagne le plat et aspirez-les en silence. S'il reste du bouillon, buvez-le à même le bol. C'est permis. 5. Le mystère de l'umami. Reconnu pour faire saliver, l'umami constitue la cinquième saveur détectée par l'être humain après le sucré, le salé, l'acide et l'amer. L'origine du mot vient des termes « umé » qui veut dire « délicieux » et « mi » désignant le goût. C'est au début du XXe siècle que Kikune Ikeda, professeur de chimie à Tokyo, a révélé l'umami au grand jour. Contrairement aux autres saveurs, il est assez difficile de reconnaître celle-là. C'est le côté réconfortant des ramen, dans toute leur profondeur et leur longueur en bouche, qui indique sa présence. 6. Tout sur les ramen. Vous avez la passion des ramen? Planifiez une visite au musée du ramen de Shin-Yokohama, situé dans la ville de Yokohama, lors de votre prochain voyage au pays du soleil levant. Ouvert depuis le 6 mars 1994, l'établissement accueille les visiteurs et visiteuses et leur propose une exposition sur l'histoire et la culture des ramen. Il est d'ailleurs possible d'y apprendre à cuisiner ses propres nouilles selon une technique traditionnelle chinoise, en plus de goûter aux différents types de ramen popularisés dans chaque région du pays. C'était Les ramen en 6 infos savoureuses, un texte commandité paru le 7 octobre 2024 dans La Presse.